Il est 8h10 à Port-au-Prince, c'est l'heure du journal d'Haïti des Amériques et c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bienvenue à tous. Les Vénézuéliens n'arrivent plus à se soigner et cela met leur vie en danger. La majorité des médicaments ne sont plus disponibles, ce qui est très compliqué, notamment pour toutes les personnes qui ont subi une greffe. On écoutera dans un instant le reportage de notre correspondant Julien Gonzalez dans un hôpital de Caracas. La visite de Benjamin Netanyahou à Washington, le premier ministre israélien, compte réchauffer encore plus les relations avec son allié américain. Les deux hommes vont se rencontrer dans un contexte particulier, teinté de scandale. Il en sera question dans votre revue de presse, Stéphanie Schuller. On ira à Hollywood pour parler de la nuit des Oscars et du triomphe pour le Mexicain Guillermo del Toro et son film La forme de l'eau, une ode à la tolérance. Le réalisateur en a profité pour évoquer son statut d'immigré aux États-Unis, critique à peine voilée à la politique de Donald Trump. Il est 9h10 à Caracas, le Venezuela, où la crise économique se transforme en urgence humanitaire. De nombreux malades ne peuvent plus se soigner par manque de médicaments. Selon la Fédération pharmaceutique vénézuélienne, la pénurie de médicaments dans le pays est de 85%. La chute de l'attribution des devises par l'État vénézuélien étant l'un des facteurs qui affecte le plus la production et l'importation de ces précieux médicaments. Une situation qui touche tout particulièrement les maladies graves et les maladies chroniques, comme pour les patients qui ont subi une greffe des reins, qui doivent impérativement prendre des médicaments pour éviter tout rejet. Le reportage à Caracas de notre correspondant Julien Gonzalez.
Hôpital Clinico Universitario, Caracas, 8h du matin. Plusieurs patients attendent avec inquiétude. Tous ont reçu à un moment de leur vie une greffe de rein et nécessitent donc un traitement immunosuppresseur à vie. Des médicaments introuvables depuis de très nombreuses semaines, comme le raconte Désiré Biamonté.
Le médecin m'a fait faire des examens et je présente des signes de rejet de mon rein parce que je suis sans traitement depuis 3 mois. Depuis décembre, je ne prends plus de médicaments parce que la pharmacie de la sécurité sociale n'a pas mon traitement. Je suis très inquiète parce que c'est ma santé qui est en jeu. C'est mon rein. Sans lui, je ne vis pas. Sans rein, je retombe en dialyse. Et en ce moment, c'est très difficile de se faire soigner quand on est dialysé. Bien sûr que j'ai peur. Si tu perds ton rein et que tu n'es pas dialysé, tu meurs.
Osvaldo Rincón présente lui aussi un rejet. Il s'est rendu plusieurs fois à la pharmacie de la Sécurité sociale qui prend en charge les maladies à risque nécessitant un traitement coûteux, en vain. Et dans les autres pharmacies, son traitement est la plupart du temps indisponible ou alors à 6 millions de bolivars la boîte, comme le raconte sa fille, soit 10 fois plus que sa pension de retraite. Présente avec lui lors de sa visite à l'hôpital, elle ne cache pas son inquiétude.
Je lui ai donné mon rein et ça a été un vrai sacrifice économique. Nous avons réuni tout l'argent que nous pouvions pour cette greffe à cette époque où au Venezuela nous pouvions encore à peu près survivre. J'avais l'espoir que ce serait pour toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure, mais certainement pas qu'il meure à cause du manque de médicaments. Je suis très triste parce que mon papa est un homme qui a encore du temps à vivre. Je viens d'avoir une fille et je veux qu'il la voie grandir. Il y a quelques jours, nous avons vendu des choses dont nous n'avions pas besoin pour rassembler de l'argent et avoir des médicaments. Même si nous n'en avons trouvé qu'un seul, qui est le plus important, le traitement anti-rejet.
Néphrologue et notamment spécialiste de la greffe de rein depuis 17 ans, Luis Hernandez décrit une situation chaque jour plus critique, car, comme l'explique ce médecin, s'il y a quelques années, le taux de rejet très faible était dû à une maladie, aujourd'hui, c'est le manque de médicaments qui met en danger ses patients.
La situation des patients avec une greffe de rein est vraiment un désastre. À l'hôpital, nous soignons environ 715 patients dans mon service. Parmi eux, nous avons en ce moment 25 patients qui présentent un rejet, 5 ont perdu leur organe et 4 autres en sont morts. En situation de rejet, il faut utiliser une thérapie de sauvetage qui est aussi introuvable. Donc les patients retournent en dialyse, ce qui veut dire encore plus de patients en dialyse et moins de place, sans compter que c'est un drame biologique, psychologique et social.
Une angoisse qui a poussé des patients à se rassembler le mois dernier à Caracas à l'appel d'ONG de défense du droit à la santé. Lucila Velutini fait partie de la direction de l'Organisation nationale de greffe au Venezuela. Face à une situation insoutenable, elle demande aux autorités de réagir.
Le gouvernement n'aurait qu'à reconnaître qu'en ce moment, il y a une crise et que nous avons besoin de coopération internationale pour résoudre cette crise. afin que nous puissions revenir à une normalité où tous les malades auraient accès à leurs médicaments.
Du côté des autorités, l'homme fort du parti chaviste au pouvoir, Diosdado Cabello, a récemment attribué le manque de filtres de dialyse aux sanctions et aux blocages. Le ministre de la Santé, quant à lui, a assuré à plusieurs reprises le mois dernier l'arrivée de filtres dans le pays. Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Dans votre revue de presse, le Venezuela est également à la une puisque le président Nicolas Maduro reçoit aujourd'hui ses alliés à Caracas, à savoir les chefs d'État de l'ALBA, l'Alliance Bolivarienne pour les Amériques.
Oui, tout à fait. Le président vénézuélien cherche un soutien international pour contrer les critiques soulevées par les États-Unis, l'Union Européenne et certains pays d'Amérique latine concernant les conditions dans lesquelles doit se tenir l'élection présidentielle le 20 mai, constate El Universal. Le sommet de l'ALBA s'ouvre à Caracas 5 ans, jour pour jour, après la mort de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Hugo Chavez qui avait créé cette alliance régionale en 2004 avec des pays tels que Cuba, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, le Suriname et d'autres. Mais pour l'instant, seule la présence à Caracas du président bolivien Evo Morales est confirmée pour ce lundi, rapporte le quotidien.
Du coup, Stéphanie, une question se pose aujourd'hui. Que reste-t-il de l'ALBA?
Eh bien, selon Milos Alcalay, l'alternance démocratique en Amérique latine préoccupe les héritiers du socialisme du XXIe siècle, un mouvement politique aujourd'hui de plus en plus isolé dans l'hémisphère. La mégalomanie qui consistait à financer à l'aide des pétrodollars vénézuéliens les campagnes électorales des candidats partageant la même idéologie dans d'autres pays semble aujourd'hui toucher à sa fin, écrit l'ancien ambassadeur vénézuélien aux Nations Unies. Dans une tribune publiée sur le site Analytica, il poursuit « À l'époque de Chavez, l'exportation du modèle bolivarien se faisait de manière silencieuse. Aujourd'hui, les sympathisants de Nicolas Maduro tentent d'influencer les élections au Mexique, en Colombie ou encore au Paraguay en soutenant les candidats de la gauche à l'aide de faux comptes sur les réseaux sociaux. » Et l'analyste de conclure, l'ALBA a beau être affaibli, ce sommet s'ouvre aujourd'hui à Caracas avec la claire intention d'utiliser ses dernières cartouches pour récupérer les territoires perdus. Le désastre qu'ont suscité ces socialistes du nouveau millénaire devrait être le meilleur antidote pour résister à ce chant des sirènes.
Direction le Salvador à présent, la droite s'impose aux élections législatives et municipales.
Oui, le parti d'opposition Arena est arrivé en tête lors des élections de dimanche, selon des résultats préliminaires. Il a relégué le FMLN du président Salvador Sánchez Serén en deuxième position, annonce aujourd'hui le quotidien El Diario de Hoy. Arena a immédiatement célébré sa victoire. Elle lui permet en effet notamment de reprendre la mairie de la capitale San Salvador avec son candidat Ernesto Imuchont.
Stéphanie, ce scrutin avait valeur de test pour l'élection présidentielle au Salvador, prévue l'année prochaine, mais il y a eu un faible taux de participation aux élections locales hier. Et même si des chiffres précis n'ont pas encore été communiqués, la politologue salvadorienne Janete Alguilar se montre préoccupée.
On note une faible participation des électeurs au centre de dépouillement des bulletins. Et dans beaucoup de bureaux de vote, la participation n'a même pas atteint 50%. Si cette tendance se confirme, nous aurions sans doute le taux d'abstention le plus élevé de l'histoire récente de notre pays. C'est très dommage que 26 ans après la signature des accords de paix, eh bien la démocratie que nous avons tenté de mettre en place soit en recul. Ce n'est pas nouveau, mais c'est certainement préoccupant. Ces institutions politiques perdent de leur légitimité aux yeux des citoyens. Cela veut dire qu'il faut vraiment s'attaquer aux réformes structurelles et à des transformations en profondeur de notre système politique.
Janete Alguilar au micro de Marcos Garcia Herrera. Et Stéphanie, la presse salvadorienne est également inquiète suite à ces élections.
Oui, tout à fait Anne, la prensa gráfica ne perd pas de temps et s'adresse aux nouveaux élus avant même de connaître les résultats définitifs. Ce dont le pays a besoin et ce que la société espère, c'est une meilleure gouvernabilité, écrit l'éditorialiste qui rappelle que l'élection présidentielle doit donc se tenir en février 2019 et que sa bonne organisation dépendra de l'action irréprochable des nouveaux élus. élus. Ceux-ci doivent se montrer déterminés à combattre la criminalité, à garantir la transparence et le respect de la loi. Ils doivent impérativement gagner en crédibilité en évitant le blocage des institutions et l'instabilité, deux éléments qui rendraient impossible la campagne présidentielle à venir.
Au Pérou, à présent, l'ancien président Alberto Fujimori a dû être de nouveau hospitalisé.
L'ex-dictateur souffre d'une sévère déshydratation et d'une tachycardie en raison d'une gastro-entérite, annonce le quotidien Gestion aujourd'hui. Selon les médecins, son état s'est amélioré mais n'est pas encore jugé satisfaisant. Alberto Fujimori, qui a tenu le pays d'une main de fer de 1990 à 2000, purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption lorsqu'il a été gracié le 24 décembre pour raison de santé par le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski. Cette libération, vous vous souvenez, cette libération anticipée au bout de 12 ans seulement, avait déclenché une crise politique et de vives protestations des victimes de la répression du régime Fujimori. Mais l'ancien dictateur pourrait ne pas en avoir fini avec la justice, rappelle Gestion, car le 20 février dernier, une cour péruvienne a décidé de poursuivre Alberto Fujimori pour l'assassinat de 6 paysans.
Aux États-Unis, Donald Trump reçoit le Premier ministre israélien, aujourd'hui Benjamin Netanyahou. L'alliance entre les États-Unis et Israël semble plus solide que jamais et le président américain a même franchi un palier supplémentaire en décembre dernier quand il a annoncé reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine sur place. Une annonce qui est suivie par celle du président du Guatemala qui a lui aussi décidé de transférer son ambassade à Jérusalem. Il l'a annoncé lors de la conférence annuelle sur les affaires publiques israélo-américaines, l'AIPAC, qui s'est tenue ce week-end à Washington. La correspondance de Grégoire Portier.
Le président du Guatemala, Jimmy Morales, était l'une des têtes d'affiche du premier jour de la conférence de l'AIPAC et il a reçu une standing ovation. En décembre dernier, son pays avait été l'un des 7 seuls à s'allier aux États-Unis et à Israël pour voter contre une résolution des Nations Unies condamnant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État juif. Ces deux prochains jours, l'accueil devrait donc être tout aussi chaleureux pour le vice-président Mike Pence et surtout pour Nikki Haley, l'ambassadrice américaine qui, à l'ONU, avait fait face seule contre presque tous. Cependant, tous les sujets ne font pas l'unanimité. Sur l'Iran, sur l'assistance à la sécurité ou sur une possible loi anti-boycott d'Israël, l'AIPAC a bien du mal à conserver son approche bipartisane. D'autant que malgré l'idylle en public, les relations entre la Maison-Blanche et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne sont pas si simples non plus. On ne sait notamment toujours rien de la stratégie américaine pour un plan de paix avec la Palestine confié à Jared Kushner, lui-même juif orthodoxe. Pire, le gendre du président a perdu beaucoup de crédit la semaine dernière. Son accès aux informations top secrètes a été officiellement dégradé à cause de ses activités d'homme d'affaires. Grégoire Portier, New York, RFI.
Alors Stéphanie, que dit la presse américaine aujourd'hui de cette visite du Premier ministre israélien à Washington ?
Pour le Los Angeles Times, Benjamin Netanyahou commence ce déplacement sur le sol américain en essayant d'oublier les problèmes personnels et politiques qu'il rencontre chez lui en Israël. Un Premier ministre israélien malmené par des scandales rencontre un président américain lui aussi mal en point. Il sera intéressant d'observer comment ces deux dirigeants tenteront de faire oublier les affaires qui les guettent, estime le grand quotidien de la côte ouest.
On passe aux Oscars à Hollywood avec le triomphe du film du Mexicain Guillermo del Toro, The Shape of Water, la forme de l'eau en français, qui remporte 4 statuettes pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction artistique. Autre récompense, la musique, composée par un français, Alexandre Desplat. Le film raconte l'histoire d'amour entre une créature aquatique et une femme de ménage muette. Une consécration donc pour le réalisateur de 53 ans qui, lors de son discours de remerciement, a fait passer un message contre la politique anti-immigration du président américain Donald Trump. On l'écoute.
Je suis un immigrant, comme mes compatriotes Alfonso et Alejandro, mais aussi comme Salma Hayek et beaucoup d'entre vous. Depuis 25 ans, je vis dans des pays différents, dans le monde entier. Une partie de l'année ici, une autre en Europe, un peu partout. Une des plus belles choses permises par l'industrie du cinéma, c'est d'effacer les frontières, les lignes sur le sable. Il faut continuer ainsi, même si on nous dit le contraire. L'endroit dans lequel j'aime le plus vivre, c'est la planète Terre. En 2014, j'étais ici et on a parlé d'un projet fou, d'un dieu amphibien, d'une femme muette. À Hollywood, on a su entendre mes arguments. Ma mère vous remercie, mon père vous remercie, mes frères et mes sœurs vous remercient. Et moi, à mon tour, je vous remercie.
My father thanks you, my brothers and sisters thank you, and I thank you very much. Thank you.
C'était hier soir à Hollywood, Guillermo del Toro, le réalisateur de La Forme de l'eau, Stéphanie.
Ouais, c'était une belle soirée pour le pays natal du cinéaste del Toro d'ailleurs, Anne. Outre La Forme de l'eau, le film Coco de Pixar, un hommage à la fête des morts, a remporté les prix du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est un véritable vent d'euphorie qui souffle aujourd'hui sur les unes des journaux mexicains. Nuit mexicaine à Hollywood, s'exclame par exemple enthousiaste El Occidental. Guillermo del Toro offre la gloire au Mexique, jubile aussi El Excelsior.
Alors, les mouvements féministes MeToo et Time's Up contre le harcèlement et les agressions sexuelles ont été également très présents lors de cette cérémonie hier soir à Los Angeles.
Oui, le producteur tombé en disgrâce, Harvey Weinstein, qui pendant des années faisait presque partie d'immeubles à la cérémonie des Oscars, n'était pas de la fête ce dimanche, constate le Los Angeles Times. En revanche, trois des actrices l'ayant accusé de violences sexuelles sont montée sur scène. C'était l'un des moments les plus émouvants de la soirée, estime le journal.
Merci Stéphanie Schuller. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité ultramarine. Le journal de la première est présenté par Tessa Groman. Bonjour Tessa.
Bonjour Anne.
Et les ouvriers agricoles de Guadeloupe et de Martinique se mobilisent contre les pesticides.
Ils veulent déposer plainte contre les exploitations agricoles des deux îles. Dans le dossier du chlordécone et du glyphosate, ils s'estiment oubliés alors qu'ils sont les premiers exposés aux effets de ces pesticides. Ils se sont réunis ce week-end à l'initiative du syndicat CGT. Le reportage de Chantal Horn, la première en Guadeloupe. Le reportage
les pesticides sont partout présents dans notre environnement, dans l'air, dans l'eau, dans nos aliments et même dans notre corps. Eux, les ouvriers de la banane, sont davantage exposés, perclus de douleurs, ils dénoncent. Albert Cocollier de la CGTG Banane.
Chlordécone, nous inhaler, nous travaillons dedans, nous patougions dedans et pour nous ne pas parler de ça.
Dans la procédure, l'intersyndicale va exiger des analyses approfondies. Maryse Marie-Sainte, ouvrière de la CGTM Banane.
Cet appareil existe pour détecter le taux de chlordécone dans le sang de chaque ouvrier agricole et nous exigeons que ça soit fait pour chaque ouvrier agricole de Guadeloupe et de la Martinique.
Les ouvriers réclament aussi une reconnaissance des pathologies dues à l'exposition aux produits phytosanitaires. L'intersyndicale annonce des manifestations dans les prochains jours.
Et par ailleurs, en Guadeloupe, des agents de la consommation et répression des fraudes ont effectué des contrôles sur la présence de chlordécone dans les légumes racines vendus dans les marchés et hypermarchés de l'île. Résultat, 6% des légumes dépassent les normes autorisées. Toujours en Guadeloupe, 3 mois après l'incendie de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, la ministre des Outre-mer suspend le nettoyage des zones touchées par le sinistre. Elle l'a annoncé sur place ce week-end. Pas assez de garanties que cela puisse se faire sans délocaliser les soins dans l'hôpital. Un comité d'experts va être désigné pour évaluer les risques. On écoute la ministre Annick Girardin.
Ce qui avait été décidé et annoncé il y a 48 heures, c'est le choix de dire on reste à l'intérieur du bâtiment tout en travaillant sur les différentes zones de l'hôpital. Cette décision, me semble-t-il, n'est pas suffisamment éclairée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne reprendra pas cette même décision. Ça veut dire qu'on se pose véritablement la question et on se pose cette question avec l'équipe hospitalière. Je crois que c'est indispensable.
Ils veulent devenir mécaniciens sur des avions ou des hélicoptères. 10 jeunes Guyanais ont été recrutés par l'OPRF, l'opérateur public régional de formation. Âgés de 18 à 29 ans, ils vont partir dans l'Hexagone pour suivre une formation diplômante. Ocelia Cartes de la première en Guyane.
C'est un rêve d'enfant.
Pascal, 19 ans, est à deux doigts de le réaliser son rêve. À ses côtés, une quinzaine de jeunes participent à cette réunion d'information. L'objectif, se former au métier de l'aérien. Mylène Vanderkamer, conseillère en formation à l'OPRF.
Nous leur avons fait une diffusion de petites vidéos qui correspondaient aux différentes formations proposées par AFMAE.
L'AFMAE a été fondée par 4 acteurs principaux du secteur aéronautique. Chez nous, le projet en est à sa première édition. Pour la sélection finale, les recruteurs de l'association pour la formation au métier de l'aérien sont attendus chez nous du 12 au 16 mars.
C'est tout pour les nouvelles d'Outre-mer, Anne. Bonne journée.
Merci beaucoup Tessa Groman. C'est la fin de votre rendez-vous avec l'actualité d'Haïti et des Amériques. Merci à Jonathan Brady, à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet www.rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, 13h10, temps universel. Bonne journée à tous.
Speakons français. Yvan Amar.
Speakons français, évidemment, mais attention, pas n'importe lequel. Speakons notre français. Un français nouveau, moderne, qui se réinvente chaque jour. Alors jouez avec RFI et, à partir de la liste de 25 anglicismes qui vous est proposée, trouvez des équivalents pour sourire et pour faire sourire les autres. Soyez inventifs. Nous attendons vos réponses.
Envoyez-les à jeux.dansedemo@rfi.fr. RFI Talent présente les Amazones d'Afrique, un collectif inédit unissant les plus grandes voix du Mali comme Mamani Keïta ou Rokia Koné. Réunis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces divas sont en concert le 17 mars à 20h30 à l'Embarcadère à Aubervilliers, près de Paris. Plus d'infos sur www.banlieubleu.org.